Le 30 novembre dernier s'est tenu à la Bâtie-Neuve le 18e forum de l'économie sociale et solidaire organisé par l'UDES, l'Union départementale de l'économie sociale et solidaire. Cette année, le forum s'articulait autour de la thématique de l'égalité femmes-hommes. Une journée marquée par deux temps forts, la présentation des résultats de l'enquête menée par l'UDES sur l'égalité femmes-hommes dans l'ESS dans les Hautes-Alpes et la conférence de Lucille Peytavin, historienne et essayiste, venue présenter les conclusions de son ouvrage « Le coût de la virilité ». Au micro de Fréquence Mistral, nous retrouvons la présentation de l'enquête de l'UDES, Lucille Peytavin qui nous éclaire sur le contenu de son ouvrage, ainsi que le retour d'expérience de Louison et Simon de l'association guyapensaise Mobilidé.
Pour ce 18e forum de l'ESS, ce moment annuel de rencontre, d'échange, de convivialité, les 850 employeurs de l'ESS et les autres structures non employeurs se rencontrent, font connaissance et chaque année mettent en débat entre elles et avec leurs partenaires un thème. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de passer une journée en portant ce qu'on appelle les lunettes du genre. Alors si vous ne l'avez jamais fait, ça va un peu vous piquer, mais ce n'est pas grave. Si vous l'avez déjà fait, vous allez sans doute revoir des choses, vous rappeler que, ah oui, il reste quand même pas mal de chemin à faire. Alors, un peu de statistiques. Donc aujourd'hui, je vais considérer que toutes les personnes de genre féminin de cette salle, quel que soit ce qui est écrit sur leur contrat de travail, sont bénévoles. Et oui, madame, désolée, si vous travaillez, sachez que depuis le 6 novembre, vous n'êtes plus payée. Statistiques Eurostat de 2021, les femmes sont 15% moins rémunérées que les hommes. Il va falloir que nous agissions tous ensemble. Je vais passer la parole à Delphine qui va nous présenter les analyses du questionnaire qu'on a mis en place à l'occasion de ce forum.
En fait, cette enquête, elle a été menée dans le cadre du 18e forum qui a lieu aujourd'hui de l'UDES, dont le thème « L'égalité femmes-hommes dans l'ESS » a été retenu il y a déjà 2 ans, je crois, et ça s'est concrétisé cette année. Il y a eu les premières commissions forum au mois de juin, et est née assez rapidement l'idée d'avoir une image, le jour du forum, de ce qui se fait réellement, concrètement, en termes d'égalité femmes-hommes, dans les structures de l'ESS adhérentes à l'UDES, puisqu'à la base, c'était la cible. Et elle s'est définie, cette enquête, entre juin et début septembre, au sein de la commission forum, donc avec une petite dizaine de personnes, à travers les thèmes qui pouvaient être déclinés en lien avec l'égalité femmes-hommes. Donc on a choisi le profil des structures qui répondaient et la mixité au sein de ces structures. La conciliation des temps de vie, c'est-à-dire comment le temps de vie de chaque personne est partagé entre sa vie professionnelle, personnelle et son temps de loisirs non familial et familial. La gouvernance et le bénévolat, c'est-à-dire qu'on est sur des structures de l'ESS, donc très majoritairement associatives ou mutualistes ou coopératives qui ont des fonctionnements avec des bénévoles et notamment des conseils d'administration, donc qui demandent de l'implication de bénévoles. Donc là aussi, quelle était l'égalité au sein des personnes qui s'engagent, en fait, et de la répartition du rôle de ces personnes au sein des CA. Et le dernier point, c'était de manière générale la culture de l'égalité à travers les projets, la réflexion au sein de l'ESS. On a fait 4 axes.
D'accord. Ces 4 axes-là, vous les avez vraiment décidés en concertation, tous ensemble, durant les temps de discussion?
Alors, ces 4 axes, ils sont ressortis assez rapidement dans les discussions, mais pas forcément de manière aussi claire. Et en fait, c'est en construisant le questionnaire qu'on a ces 4 axes qui sont ressortis et que le questionnaire s'est basé sur ces 4 axes, avec une 40aine de questions quand même et pas mal de questions ouvertes.
Est-ce que vous avez beaucoup de participation à cette enquête ?
Il y a eu plus de 55 réponses. Alors ça reste un mystère, alors que normalement les questions étaient quasiment toutes obligatoires. Certaines personnes réussissaient à ne répondre qu'à une partie. Au final, c'est 46 questionnaires qui étaient complets, qui ont été utilisés.
Et est-ce que vous avez noté une différence de participation entre hommes et femmes, justement ?
Alors cette différence, oui, elle existe. Elle existe déjà dans la répartition des salariés au sein de l'ESS dans le département, puisqu'on est à plus de 60% de femmes salariées dans l'ESS dans le département. Et sur les réponses des questionnaires, c'est 65% de personnes qui se sont déclarées femmes qui ont répondu.
Et cette enquête, qu'est-ce que vous allez en faire par la suite ?
Alors c'est toute la question qu'on n'a pas complètement tranchée. Déjà on va retravailler la présentation pour qu'elle puisse être présentée et peut-être être sur le site de l'UDES. Et la question se posait de la laisser ouverte pour voir si on continuait d'avoir des réponses. On n'a pas tranché, il y a une réunion d'ici une dizaine de jours de bilan et c'est à ce moment-là qu'on pourra faire le lien pour la suite.
Pour l'instant vous n'avez pas encore d'idée de préconisation à faire aux structures adhérentes ?
Alors aujourd'hui, en fait, typiquement, la journée, elle sert à ça, c'est-à-dire à présenter un état des lieux à l'instant T avec les structures qui ont répondu, à le mettre en lien avec une étude au niveau national, comme ça a été fait sur la présentation du questionnaire, à le mettre en lien aussi avec ce qui se fait en termes de conciliation des temps de vie et de réflexion sur l'égalité en milieu professionnel qu'a présenté la déléguée aux droits des femmes sur Egalab, et à le mettre en lien aussi avec la conférence de Lucille Peytavin qui a permis de prendre un angle plus large sur le coût de la virilité, mais qui est toujours en résonance avec l'enquête, avec ce qui se passe dans le département. L'objectif du forum aujourd'hui, c'est pas d'apporter des bonnes réponses et des kits tout faits de l'égalité femmes-hommes dans l'ESS, c'est ça, il faut faire comme ça dans les quatre domaines que j'ai cités. L'objectif, c'est d'amener de la réflexion et de l'échange de pratiques, c'est ce qui va se passer cet après-midi, avec des structures qui vont témoigner de pourquoi elles ont réfléchi à ce sujet-là, comment est née la réflexion, quelles réflexions elles ont mis en branle dans leur organisation, quel en a été le résultat ou pas, là où ça a fonctionné, là où ça n'a pas fonctionné. Et l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de permettre aux structures de l'ESS de se poser une question qui n'est pas forcément posée systématiquement, et on le voit bien dans ce questionnaire, il y a une partie des réponses où ils nous disent « mais en fait, ce n'est pas un sujet ». Ce qui peut être entendable, hein, complètement, il n'y a pas d'échelle de discrimination, mais de fait, l'égalité femmes-hommes, comme le citait la directrice d'Adela, on travaille gratuitement aujourd'hui les femmes dans l'ESS depuis le 6 novembre. Donc voilà, il y a des choses quand même qu'il faut voir, qui sont évidentes. Et donc le fait de se poser la question, de se le répéter toute la journée, d'entendre ce discours, on espère, va permettre de lancer une réflexion dans les structures qui sont présentes.
Une dernière question, vous parliez du 6 novembre, qu'à partir du 6 novembre, les femmes travaillaient bénévolement. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ?
De manière générale, hein, tout confondu, en lissant les temps partiels, etc., les femmes sont payées 16% de moins que les hommes. Donc à partir du 6 novembre, les femmes travaillent gratuitement.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lucille Peytavin. J'ai une formation d'historienne, j'ai fait de l'histoire économique et sociale, notamment pendant ma thèse. Je me suis intéressée à la place des femmes dans l'artisanat et le commerce au 19e, au 20e siècle en milieu rural. Peut-être pour faire le lien entre mes travaux et le questionnaire et les résultats qui ont été présentés tout à l'heure. On voit bien que le secteur de l'ESS, mais comme beaucoup de secteurs dans le monde du travail, finalement n'échappe pas aux problématiques qui sont posées par les différences de traitement entre les hommes et les femmes dans la société. L'ESS supporte aussi les coûts des violences sexistes et de la virilité dans notre société. Et effectivement, moi je me suis intéressée à cette question de calcul des coûts, que j'ai appelé les coûts de la virilité. Alors je vais vous expliquer pourquoi je les ai appelés comme cela.
Je suis Lucille Peytavin, historienne, essayiste, spécialiste des questions d'égalité entre les hommes et les femmes, et notamment autrice d'un essai qui s'intitule « Le coût de la virilité, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes ».
Alors tu as publié ce livre en mars 2023, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par « le coût de la virilité » ?
Je suis partie d'un constat qui est que les hommes sont responsables de l'immense majorité des faits de violence, de délinquance, de criminalité dans la société. Il faut savoir qu'ils représentent par exemple 83% des mises en cause par la justice, 90% des personnes condamnées par la justice, que la population carcérale masculine représente 96,3% du total et qu'ils sont surreprésentés dans tous les types d'infractions et notamment les plus graves. Et donc tout cela entraîne des coûts pour l'État en termes de frais de justice, de forces de l'ordre, de services de santé et puis pour la société parce qu'il y a des victimes avec des souffrances physiques, psychologiques, des pertes de productivité, des destructions de biens. Et donc, j'ai évalué quel était le surcoût que représentent les comportements antisociaux des hommes par rapport à ceux des femmes et finalement ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes, c'est-à-dire s'ils commettaient aussi peu de faits d'infractions qu'elles, puisque les femmes ne représentent que 17% des mises en cause par la justice.
Et quel est ce coût alors ?
Alors, je suis arrivée à un total de 95,2 milliards d'euros par an, soit près de 100 milliards d'euros par an. Donc, c'est tout à fait colossal, mais c'est un chiffre qui est sous-estimé en raison de la difficulté à avoir accès aux données ventilées par sexe et puis parce qu'il y a un grand nombre d'infractions qui ne font pas l'objet d'une poursuite pénale et donc on ne peut pas les prendre en compte dans ce calcul. Mais en tout cas, ça permet de rendre plus objectifs les conséquences de ces comportements virils, notamment masculins, et finalement de les rendre, plus objectifs.
Et pourquoi as-tu choisi d'avoir une approche économique dans cette étude ?
Alors, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai choisi ou si c'est elle qui m'a choisi. mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait jusque-là. Et quand j'ai eu l'idée de calculer ces coûts, j'ai tout de suite vu l'argument que ça pouvait être. Parce que c'est vrai qu'on on reproche souvent, voilà, c'est bien utile aux féministes d'être un peu trop dans l'idéologie. Et là, d'utiliser les arguments statistiques, économiques, déjà, ça parle à tout le monde, mais particulièrement aux hommes parce qu'ils sont davantage éduqués à être à l'aise avec les chiffres. Et puis, on est dans une société où bien on compte pour tout, voilà, l'argent est au cœur de nos politiques publiques. Et donc, effectivement, je me suis dit qu'il fallait qu'on ait cet outil, cet argument pour pouvoir convaincre sur les questions d'éducation, notamment des garçons à l'égalité.
Alors, tu expliques qu'une des grandes causes de ce coût, finalement, ce serait l'éducation. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ?
Alors oui, déjà ce n'est pas une nature masculine qui expliquerait que les hommes sont davantage violents que les femmes. Aujourd'hui, on a moult études scientifiques qui nous montrent que non, ce n'est pas le cerveau, non, ce n'est pas la testostérone, même si c'est des idées reçues qui reviennent sans cesse. Ça n'a pas toujours été dans l'histoire, ça n'a pas toujours été dans toutes les civilisations. Et donc quand on croise tous ces champs disciplinaires, en effet, il apparaît qu'il n'y a pas de fatalité dans la biologie, la physiologie des hommes qui les pousserait à se comporter de cette façon. Mais à l'inverse, en face, on a des études de sociologie, de sciences de l'éducation qui nous montre que encore aujourd'hui on éduque les petits garçons à travers la notion de virilité qui est une norme, un idéal normatif qui définit dans notre société ce que doit être un vrai homme et c'est une notion qui rassemble les attributs de force, de puissance à la fois physiques et moraux et qui vont servir des rapports de domination des hommes, alors des hommes entre eux mais des hommes aussi sur les femmes, des hommes qui vont exercer de la violence, de la discrimination, du non-respect des règles au détriment de l'ensemble de la société, effectivement des femmes et des hommes eux-mêmes.
Est-ce que la solution se trouve que dans l'éducation ou est-ce qu'on peut trouver d'autres solutions ?
Non, il n'y a pas d'autres solutions. Toutes les études nous montrent que finalement, c'est une construction sociale. Ces rapports de domination découlent d'une construction sociale qui se joue dès les premiers jours de la vie des enfants et notamment des garçons. Et c'est véritablement là-dessus qu'il faut jouer. Alors à la fois, ça semble être un très très gros travail, et effectivement parce que c'est un travail de changement des mentalités, mais en même temps, comme c'est une construction sociale, c'est qu'on peut aussi la déconstruire, et donc on peut aussi jouer sur tous ces schémas culturels et éducatifs, et donc imaginer un jour vivre dans une société beaucoup plus apaisée, où la violence serait beaucoup moins importante, parce qu'on aurait cessé d'éduquer les garçons à travers cette notion de virilité, mais beaucoup plus avec des valeurs humanistes.
Et comment le coût de la virilité s'observe-t-il dans le monde du travail ?
Alors c'est une question un peu compliquée, c'est-à-dire qu'il y a peu d'études qui abordent véritablement la question de virilité dans le monde du travail. Il y en a de plus en plus, il y a même des entreprises qui ont mené des enquêtes sur ce sujet avec des sociologues, mais c'est des études qui ne sont pas toujours publiées parce que ce sont des sujets sensibles, notamment sur les questions de prise de risque au travail, puisqu'il y a un lien qui est fait entre identité virile et prise de risque. Alors des prises de risque qui peuvent avoir lieu par exemple face à une autorité trop forte ou trop importante, les hommes, pour réaffirmer leur rôle finalement masculin ou voilà, viril, vont davantage prendre de risques, ce qui va avoir des conséquences pour l'entreprise. Alors non seulement en termes de pertes économiques, parce que voilà, il peut y avoir des arrêts de travail, de l'absentéisme, etc., mais aussi pour les questions de sécurité dans des entreprises. Et donc c'est des sujets qui commencent à émerger, mais qui sont encore extrêmement tabous, malheureusement.
Comment se manifestent les inégalités hommes-femmes dans le monde du travail concrètement ?
Dans le monde du travail, alors je pense qu'on parle souvent des différences d'égalité salariale. Ça peut paraître un peu redondant, mais c'est absolument central parce qu'aujourd'hui, si on a en moyenne à 15% de différence entre les hommes et les femmes, tout type de contrat confondu, pour tout type de poste confondu, la principale cause de ces différences, elle repose sur le non-partage équitable de la parentalité. Et ça, c'est absolument fondamental. C'est parce que les femmes ont encore sur leurs épaules 80% des tâches parentales et domestiques. Et donc, c'est véritablement dans la sphère privée qu'il faut travailler pour qu'ensuite, on puisse voir des améliorations dans le monde du travail. Et je pense que cette question de la parentalité, c'est aussi une déconstruction, quelque part, du rôle des hommes et quelque part aussi de la virilité des hommes qui doivent pénétrer les sphères qu'on considère être comme féminines. Parce que je pense que ce qu'on a de plus précieux dans la société, ce sont les êtres humains et que les hommes doivent aussi prendre part à ce travail d'élever, de prendre soin des autres et des êtres humains.
Est-ce que tu aurais un commentaire à faire justement sur l'enquête qui a été faite par l'UDES ?
Alors je trouve que les chiffres de l'enquête montrent qu'il y a quand même des points très positifs dans l'économie sociale et solidaire. Le fait qu'à certains points, des femmes sont autant impliquées que les hommes, même s'il y a toujours des biais, elles le sont quand même moins dans les postes à responsabilité, par exemple. Mais en tout cas, le fait que ce secteur aussi s'empare de ces sujets, organise cette journée autour de ces questions, montre quand même qu'il y a du changement. La plupart des entreprises aujourd'hui s'interrogent sur l'égalité homme-femme. Après, je pense que le point, et notamment les sujets que moi j'ai pu évoquer aujourd'hui et qui me semblent centraux, c'est le fait de penser aussi eh bien, à ne pas seulement orienter les femmes vers des métiers d'hommes, mais aussi les hommes vers des métiers de femmes, et de déconstruire finalement tous ces rapports de domination du point de vue des hommes. Parce que si les femmes, si on les pousse à prendre aussi leur place, à être fortes, déjà elles le font. On voit aujourd'hui qu'elles sont plus diplômées que les hommes, mais elles ne sont pas dans les postes à responsabilité. Donc pousser les femmes à davantage prendre leur place, ça ne fonctionne pas. Et à mon sens, il faut davantage questionner les hommes et leur comportement, les masculinités qui mènent à la domination.
L'association Mobilité, c'est une association qui existe depuis 15 ans à Gap. On travaille à développer des alternatives à l'utilisation individuelle de la voiture. On a différents axes d'intervention. On va travailler à la fois sur des projets d'aménagement cyclable, sur des projets aussi de réemploi de vélos. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que les vélos ne deviennent pas des déchets, mais qu'ils puissent être remis en circulation et revendus à des prix accessibles. Et on a aussi tout un volet d'école du vélo et de la mobilité, où là on essaie de faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens sur les vélos, et notamment à travers les collèges et les écoles.
Aujourd'hui, on est au forum de l'UDES 05 où a été présentée donc la thématique de l'égalité femmes-hommes. L'enquête qui a été faite par l'UDES autour de cette thématique a été présentée ce matin. Est-ce que vous avez participé à cette enquête ?
Oui, on y a participé. On fait partie de la direction collégiale à Mobilité. Je pense qu'on peut rebondir là-dessus parce qu'on était quatre à sortir du lot. Et donc Mobilité, c'est une de ces quatre-là. Ce qui fait que sur toutes les questions de trésorier, secrétaire et de genré à ce niveau-là, Mobilité, par le biais de la collégiale, on s'en sort. Et je crois que dans la réalité, c'est à peu près vrai, même sur les comptes rendus, puisqu'on pourrait s'imaginer à ça par rapport au travail de secrétariat qui est entendu dans les associations et qu'on a vu que c'était plutôt genré féminin sur les résultats d'enquête. Mais après, il y a plein d'autres choses à Mobilité, je pense qu'on en parlera après, qu'on peut s'améliorer, quoi.
Et du coup, à Mobilité, depuis cette année, il y a une collégiale où il y a autant de femmes que d'hommes. Il y a 4 hommes, 4 femmes. On peut prendre l'exemple du pôle comptabilité qui est surreprésenté en femmes, mais par exemple de la commission permanence mécanique et permanence d'autoréparation qui est largement surreprésentée en hommes. Donc il y a forcément des endroits, enfin pas forcément, mais il y a de fait des endroits où il y a une inégalité encore bien visible.
Sur vos équipes salariées, en dehors de vos administrateurs, est-ce que vous parvenez déjà à une égalité femmes-hommes ou on a encore des choses à améliorer de ce côté-là ?
En gros, aujourd'hui, on est 3 hommes et une femme. Il y a une deuxième femme qui intègre l'équipe sur une création de poste à partir de janvier. Donc on va être 2 femmes et 3 hommes à partir de janvier. Il y a, en fait, dans le cadre d'un remplacement, là, pendant 7 mois, il y aura plus de femmes que d'hommes dans l'équipe pour la première fois dans l'histoire de Mobilité. Peut-être que si un jour un 6e poste se crée, il y aura une égalité homme-femme dans l'équipe.
Est-ce que vous aspirez à développer plus une démarche pour parvenir à une égalité femmes-hommes dans la structure ? Est-ce que vous avez des outils ? Est-ce que c'est vraiment un thème que vous travaillez en interne ?
Oui, on peut dire que Mobilité se sent complètement intéressée par la question et la prend peut-être pas assez à bras-le-corps, mais parce qu'on voit qu'il y a encore des inégalités. Moi, je voudrais rappeler qu'on appartient quand même à un réseau qui s'appelle Le Recyclage, qui est quand même un réseau qui, on peut dire, féministe sur les ateliers vélo. En 2018, on s'est fait le constat que il y avait au niveau des adhérents et adhérentes de Mobilité, il y avait environ 60% et 40% d'hommes et de femmes, et que par contre au niveau de l'atelier, il y avait une grosse différence. Et de là est née une commission qui s'appelle la commission Cyclofem. Et en fait, c'est parti à la base en travaux en mixité pour réfléchir à comment on fait pour qu'il y ait plus de femmes qui viennent. Aujourd'hui, ça s'est concrétisé sur des ateliers en non-mixité. Et par exemple, on en parlait avec Louise, parce qu'on a refait l'historique, qui va présenter ça tout à l'heure, qu'en fait, aujourd'hui, on se limite à ces ateliers en non-mixité, mais il faudrait qu'on reparte en mixité, se re-questionner sur comment on fait pour remettre ça au goût du jour. Par contre, c'est des questions à Mobilité où je pense qu'on les amène facilement, elles ont leur place. Après, est-ce qu'on les amène tout le temps ? Ça, c'est moins sûr. Et moi, je m'en rends compte aujourd'hui en ayant travaillé ce que va faire Louise cet après-midi.
Et du coup, parmi les initiatives qui ont été mises en place ces derniers mois, on a travaillé sur une charte parce qu'on est parti du constat qu'il y avait des situations qui étaient arrivées dans le local et notamment sur les permanences qu'on ne voulait plus voir arriver. Du coup, on s'est penché ensemble sur les méthodes pour essayer de faire en sorte que certaines situations n'arrivent plus. Et là, voilà, on est en train d'aboutir à un document de type charte qui permettra normalement d'être un peu un cadre de référence, au moins sur cet espace de l'atelier.
Cet après-midi, vous allez intervenir sur une table ronde. Est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, nous rappeler la thématique de cette table ronde ?
Et donc c'est Louise, hein, notre collègue, là, on parle un peu en son nom, mais c'était vu avec elle quoi, que nous on allait parler de cette thématique, et voilà, avec vous. La thématique de la table ronde, c'est quelles initiatives existent au sein de votre structure, justement pour arriver plus vers une égalité. Donc elle va parler notamment des permanences en non-mixité qui ont été mises, et revenir un peu sur toute cette création de la commission Cyclofem, là, dont on a parlé tout à l'heure, et avec... À la fin, les résultats visibles aujourd'hui, c'est la permanence en non-mixité et des sorties vélo en non-mixité. Et donc, un peu comme on disait tout à l'heure, c'est né en 2018 et ça s'est étoffé, c'est arrivé là. Et aujourd'hui, ça vit comme toutes les commissions à mobilité, plus ou moins. Mais aujourd'hui, elles existent. Et voilà, donc Louise va en témoigner, puisque c'est vrai que les permanences en non-mixité, comme son nom l'indique, c'est toujours les femmes ou les non-cis, en tout cas non-hommes-cis, qui les gèrent. Donc nous, on n'y est pas avec Louison. Et donc on ne peut pas parler de commencer à l'intérieur, par contre.
Merci à toutes et tous d'être venus, d'avoir participé. Nous espérons que cette petite journée avec les lunettes du genre vous donnera envie de réitérer l'exercice régulièrement à l'année prochaine. Et d'autant plus à l'année prochaine que, comme on l'a déjà dit ce matin avec Myriam, la commission forum chaque année se renouvelle. Donc si vous avez vécu une journée formidable, vous pouvez venir pour que la journée de l'année prochaine soit encore plus formidable.